Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Quel chemin devons-nous emprunter pour aller à Dieu? La parole de Dieu va nous donner la seule et unique réponse à cette question, aujourd'hui même, à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plusieurs questions à poser à la première épître à Timothée aujourd'hui, donc les voici sans plus tarder. Quelle est la différence entre un ordre de Dieu et la volonté de Dieu? Quel usage devons-nous faire des commandements de Dieu? Qui est-ce qui nous ouvre le chemin pour aller à Dieu? Comment se fait-il que Paul ait pu prêcher l'Évangile avec autant d'assurance devant tout le monde? En qui pouvons-nous espérer avec assurance? Que signifie le nom Timothée? Est-ce que tout le monde a besoin de l'amour, de la grâce et de la miséricorde de Dieu? Quel est le chemin qui mène au trône de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut être sauvé par nos bonnes œuvres? Est-ce que chaque croyant doit se joindre à une assemblée locale? Est-ce qu'on doit tous obéir au Seigneur Jésus? Restez des nôtres, le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que dit la Bible en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est avec joie aujourd'hui qu'on entre dans ta présence, qu'on te demande de venir parler à nos cœurs. Parler à nos cœurs par ta parole qui est la vérité du début à la fin. Enseigne-nous des vérités dont on a besoin dans chacune de nos vies, afin de grandir dans tes voies et de faire de plus en plus ce qui t'est agréable, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, on t'écoute, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. La dernière émission était une introduction aux épîtres pastorales, trois épîtres que Paul a adressées à deux jeunes prédicateurs, soit Tite et Timothée. Ces épîtres traitent de deux thèmes principaux. Premièrement, les assemblées chrétiennes doivent adorer et avoir un credo. Deuxièmement, les gens de l'extérieur doivent voir le fonctionnement exemplaire et les bonnes œuvres de l'Église locale. Nous avons parlé de trois types de gouvernements selon lesquels les Églises fonctionnent généralement. Premièrement, l'épiscopalisme, soit le type de gouvernement de l'Église catholique romaine et de l'Église anglicane. Deuxièmement, le presbytérianisme, soit le type de gouvernement des Églises réformées telles l'Église presbytérienne et les Églises calvinistes. Et troisièmement, le congrégationalisme, soit le type de gouvernement de nombreuses Églises évangéliques, dont les baptistes. Nous avons cependant souligné qu'il y a une chose beaucoup plus importante que le type de gouvernement dans une Église. Est-ce que l'Église cherche à plaire à Dieu? Est-ce qu'elle cherche à faire la volonté de Dieu? Si oui, le Saint-Esprit va bénir cette Église, qu'importe son type de gouvernement. De plus, nous avons vu que l'apôtre Paul enseigne que les dirigeants d'Église doivent être des hommes de foi et des hommes qui aiment Dieu. Le véritable chef d'une église locale est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons l'étude du texte de la première épître de Paul à Timothée. L'apôtre mettra l'accent sur les doctrines de la foi chrétienne, mais il donnera un avertissement sérieux au sujet des faux enseignants dans l'église locale. Il insistera sur le fait que l'évangile de la grâce est le point clé de la doctrine chrétienne et il concerne la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les introductions des épîtres de Paul se ressemblent, mais celles des épîtres pastorales sont différentes de l'ensemble des épîtres de l'apôtre Paul. Celle de la première épître à Timothée est vraiment différente. Lisons-la. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Timothée chapitre 1, les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle est la différence entre un ordre de Dieu et la volonté de Dieu? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu. Paul rappelle à Timothée qu'il occupe les fonctions d'apôtre. Dans l'Épître aux Éphésiens, il a dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu ». Éphésiens chapitre 1, verset 1. Notez qu'être apôtre par ordre de Dieu ou l'être par la volonté de Dieu revient au même. Cependant, les deux expressions ne sont pas parfaitement synonymes. Tous les commandements que nous avons dans la Bible révèlent la volonté de Dieu. Cela comprend beaucoup plus que les 10 commandements. Par exemple, la Bible nous dit que, selon la volonté de Dieu, nous devons prier. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Citation de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 et 18. La volonté de Dieu comprend plusieurs éléments, et ils sont exprimés par ses commandements. Cependant, je ne crois pas que Dieu nous ait révélé toute sa volonté, même pas au moyen de tous les commandements qui se trouvent dans la Bible. La volonté de Dieu est plus étendue que la portée de ses commandements. Quel usage devons-nous donc faire de la loi? Cependant, il ne faut pas oublier que Dieu nous a révélé suffisamment sa volonté de sorte que nous savons qu'une personne n'est pas sauvée par son obéissance aux commandements de Dieu. Trop de gens croient que l'observation de la loi est essentielle pour notre salut. Au verset 8 de ce chapitre, Paul dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Quel usage devons-nous donc faire de la loi? Premièrement, rendons-nous compte que la loi est bonne. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Romains, chapitre 7, verset 12. C'est un fait, la loi est bonne, et elle demande aux hommes de se comporter selon une bonté absolue, alors qu'ils n'ont aucune bonté innée. Ils sont totalement incapables de se soumettre à la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Romains chapitre 7, verset 18. La loi bonne et parfaite, ou les commandements de Dieu, a été donnée afin de révéler la volonté de Dieu pour faire découvrir aux hommes que pour être sauvés, ils doivent trouver un moyen de salut autre que l'observation de cette loi parfaite. C'est cela l'usage légitime de la loi. Qui nous ouvre le chemin au trône de la grâce? L'Évangile est glorieux parce que Dieu a trouvé un moyen de demeurer juste tout en justifiant celui qui croit au Seigneur Jésus. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Citation du livre des Actes, chapitre 13, les versets 38 et 39. Pourquoi ne peuvent-ils donc pas être justifiés par la loi de Moïse? Eh bien, c'est qu'elle était un ministère de la mort. La loi ne fait que condamner les hommes. La loi ne nous a pas été donné comme instrument pour gagner notre ciel en l'observant, mais pour révéler que Dieu est saint et que nous, les humains, sommes loin de l'être. Le moyen de salut que Dieu a trouvé pour nous sauver est la crucifixion du Seigneur Jésus. Christ Jésus est le chemin par lequel nous venons au Père. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Ce n'est pas l'observation de la loi qui nous ouvre le chemin au trône de Dieu, mais la personne de Jésus-Christ. Qu'étaient Paul et Jérémie? Lorsque Paul a dit aux Éphésiens qu'il était un apôtre par la volonté de Dieu, il disait la vérité. Cependant, à Timothée, il a dit « Je suis un apôtre par ordre de Dieu, Dieu a fait de moi un apôtre ». Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je marche selon la volonté de Dieu que je suis un apôtre. Un jour, il m'a ordonné de prendre les fonctions d'apôtre. Je pense que Paul aurait hésité à devenir un apôtre. Il aurait fait comme Moïse. Il aurait donné des raisons à Dieu afin qu'il choisisse quelqu'un d'autre. Paul n'avait pas accompagné Jésus au cours de son ministère terrestre, alors que les 11 autres apôtres ont été des disciples de Jésus-Christ. Paul n'a jamais rencontré Jésus alors qu'il exerçait son ministère dans un corps humain. Il n'a connu que le Seigneur Jésus glorifié. Paul a toujours affirmé qu'il était indigne d'être un apôtre. Cependant, Dieu l'a recruté comme apôtre et lui a donné l'ordre de le servir dans ce ministère. C'est pour cette raison que Paul a pu prêcher l'Évangile avec assurance, dans les synagogues, devant les Athéniens, devant une foule de pécheurs à Corinthe. Il était un soldat sous les ordres du Seigneur Jésus, un apôtre parce qu'il en avait reçu l'ordre, non parce qu'il avait l'autorité pour occuper le poste. Personne n'a imposé les mains à Paul pour en faire un apôtre. Le Seigneur Jésus a personnellement nommé Paul à la fonction d'apôtre. Jérémie avait ce même type d'autorité. Il était un homme réservé, un homme au cœur brisé. Cependant, Dieu a choisi cet homme timide pour livrer le message le plus dur de toute la Bible. Pourquoi a-t-il pu faire cela? Il était un soldat sous les ordres du Seigneur Jésus. Quiconque parle au nom de Dieu aujourd'hui devrait le faire avec autorité ou se taire. Un prédicateur qui monte sur l'estrade et qui pense que toutes les opinions sont bonnes ne devrait pas prêcher. Je crois ceci, mais si vous croyez autrement, c'est bien. Toutes les opinions sont bonnes. Celui qui parle ainsi n'a rien à dire au nom de Dieu. L'apôtre Paul parle avec l'autorité qu'il avait reçue de Dieu. Dieu est notre sauveur. Est-ce que Dieu est notre sauveur? Certainement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Évangile selon Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a pourvu un sacrifice pour nos péchés, son propre Fils. Celui-ci est venu sur terre pour s'offrir en sacrifice. Qui est notre espérance? Jésus-Christ, notre espérance. Dire que Jésus-Christ est notre espérance semble étrange, car cela n'est pas dit beaucoup dans l'Écriture. En fait, cela est dit une seule autre fois, et ce dans l'Épître aux Colossiens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, le verset 27. Jésus-Christ est mort afin de vous sauver. Il vit afin de vous préserver éternellement. Un jour, il viendra vous prendre pour être avec lui, et il complétera votre salut en vous donnant un corps glorifié et en vous libérant parfaitement du péché. Il est l'objet de notre foi lorsque nous regardons son œuvre dans le passé, lorsque nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous percevons son amour, et lorsque nous regardons vers l'avenir, il est notre espérance. Il est notre espérance tout le long de notre vie. Notre espérance est ancrée en Christ Jésus. Timothée, son nom signifie « qui adore Dieu » ou « qui honore Dieu ». Le mot grec « timé » signifie « honorer » et le mot grec « théos » signifie « Dieu ». Les racines de ces deux mots forment le nom Timothée. Le livre des Actes ainsi que les épîtres aux Éphésiens et aux Philippiens nous parlent de Timothée. Son père était grec, sa grand-mère, Loïs, et sa mère Eunice étaient des chrétiennes. Il a vécu à Lystre, la ville où Paul a été lapidé. Je crois que Paul a été ressuscité des morts ce jour-là, et que cela a dû jouer dans la conversion de Timothée. Jeune homme, il était peut-être sceptique, et cet événement l'a peut-être convaincu de la véracité de la parole de Dieu, et il se serait converti. Après sa conversion, il est devenu un disciple de l'apôtre Paul. Timothée était un homme qui avait une excellente réputation. Dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 2 à 5, nous lisons. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Timothée a travaillé avec l'apôtre Paul et il s'était mérité la confiance de l'apôtre, alors que d'autres dans les églises se sont avérés être de faux frères, des loups dans la bergerie. Avoir d'excellents amis dans son église réjouit toujours le cœur d'un pasteur. Paul ne pouvait pas faire confiance à certaines personnes, mais ce n'était pas le cas du jeune et fidèle Timothée. Paul a dit aux Philippiens, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt, Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Citation de Philippiens chapitre 2, les versets 19 à 23. Timothée, mon enfant légitime en la foi. Cette expression pourrait être traduite « mon vrai fils dans la foi » ou « mon authentique fils dans la foi ». L'apôtre Paul a conduit Timothée au Seigneur Jésus, et les deux hommes sont très proches l'un de l'autre. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au premier coup d'œil, cette introduction semble identique à celle des autres épîtres de l'apôtre Paul. En effet, Paul a déjà utilisé les mots « grâce » et « paix », mais dans cette phrase, nous en avons un autre, soit le mot « miséricorde ». Le mot « miséricorde » est employé dans l'Ancien Testament et il est l'équivalent du mot « grâce ». Une fois par année, lors de la fête des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint du temple et il aspergeait le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'Alliance, avec du sang du sacrifice qui avait été offert. Dieu faisait alors miséricorde au peuple. Nous faut-il plus que la justice? Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne voulons pas qu'il fasse justice, sinon nous serions condamnés. Ce dont nous avons besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu exerce sa miséricorde envers toutes ses créatures. Dieu a toute la miséricorde dont nous avons besoin. Sa miséricorde ressemble à de l'argent déposé dans un compte bancaire. Cet argent est inutile à moins que nous le retirions au moyen de notre carte guichet. Notre carte guichet, c'est la foi. Dieu est riche en miséricorde. Mais lorsqu'il vous sauve, il vous sauve par grâce. Dieu est miséricordieux. Il manifeste sa compassion envers tous les pécheurs du monde, même ceux qui le rejettent, le blasphèment et se détournent de lui. La pluie arrose les champs des incroyants aussi bien que des croyants. Dieu ne fait pas de favoritisme, même pas envers son propre peuple. Aujourd'hui, des pécheurs s'enrichissent toujours, et nombre d'entre eux sont très prospères. Ils semblent souvent réussir mieux que ceux qui appartiennent à Dieu. Dieu exerce de la miséricorde ou de la compassion envers les pécheurs. Cependant, lorsque vous venez à Dieu, vous devez le faire par la foi. Sortez votre carte guichet spirituelle, qui est la foi, et Dieu exercera sa grâce envers vous. Amour, miséricorde et grâce. Ces trois mots, amour, miséricorde et grâce, forment une mini-trinité. L'amour fait partie de l'essence divine et elle existait avant qu'il ait bien voulu exercer sa miséricorde et sa grâce. Dieu est amour. Cela fait partie de sa nature. C'est un de ses attributs. Parce que la miséricorde et la compassion font partie de l'essence divine, il a pourvu aux besoins des hommes pécheurs. La grâce fait aussi partie de l'essence divine, et c'est par elle que Dieu sauve gratuitement les gens parce que toutes les exigences de sa sainteté sont satisfaites. Alors, puisque Dieu est miséricordieux, vous pouvez venir à lui, et il vous sauvera par grâce. Vous n'avez pas besoin de payer ou d'apporter un cadeau. En fait, vous ne pouvez rien apporter, puisque, pour Dieu, ce ne serait qu'un vêtement souillé aux yeux de Dieu, de ce Dieu saint. Quel chemin conduit au trône de la grâce? Les bien-pensants hypocrites sont ceux qui pensent ne pas avoir besoin de la miséricorde de Dieu et qui s'appuient sur leurs bonnes œuvres. Un jour, un homme sur son lit de mort a dit au pasteur qu'il visitait. « Pasteur, vous n'avez pas besoin de me dire que j'ai besoin du Seigneur Jésus comme sauveur personnel ou de sa miséricorde et de sa grâce. Je n'en ai pas besoin. » Je suis prêt à comparaître devant lui tel que je suis. » Ensuite, l'homme a énuméré toutes les bonnes œuvres qu'il avait faites et les bonnes causes qu'il avait appuyées. Mes amis, il était un bien-pensant, et il croyait que toutes ses œuvres lui mériteraient les faveurs de Dieu. Mes amis, vos œuvres de bien-pensant hypocrite ne vous serviront à rien le jour du jugement. C'est le chemin que Dieu a pourvu qui vous conduira au trône de la grâce. Ce chemin, qui est Jésus-Christ, vous rend capable de faire des œuvres acceptables aux yeux de Dieu. Autrement dit, il vous rend capable de faire des œuvres par amour pour lui. La justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Nous avons vu que dans les épîtres pastorales, dont ce verset, l'apôtre Paul utilise des expressions qu'il n'utilise pas ailleurs. Il a parlé plus intimement à ces jeunes prédicateurs qu'il l'a fait dans ses épîtres adressées à un public très vaste. N'auriez-vous pas aimé avoir été à la place de Timothée et de voyager avec l'apôtre Paul, et que ce grand apôtre se soit ouvert à vous? Bien, mes amis, l'Esprit de Dieu est présent, et il nous parle au moyen de cette lettre que Paul a écrite à Timothée. Bien que 1 Timothée soit un livre intime et personnel, il traite du fonctionnement de l'Église locale, la manifestation du corps des croyants dans une communauté. À ce point, je désire souligner que chaque croyant devrait se joindre à une assemblée locale. Dieu le Père. Dieu est le Père de Paul, de Timothée, et il est aussi votre Père si vous avez reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Il est mon Père parce que j'ai reçu le Seigneur Jésus et que j'ai été adopté dans la famille de Dieu. C'est tout un privilège. Avant sa conversion, Paul était un pharisien et il n'avait jamais eu le privilège d'appeler Dieu son Père. Pour agir au nom de Jésus-Christ, il faut être sous ses ordres. Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout ce qui est fait dans une église locale doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ et sous ses ordres. Il est la tête ou le chef de l'Église, il est le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, « Vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande, vous ne m'obéissez pas. » Ne peut-il pas dire la même chose à plusieurs d'entre nous aujourd'hui? Le jour du jugement, plusieurs diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et cela? » Notre Église grouillait comme une fourmilière, et nous le savons, car nous en étions. Cependant, le Seigneur Jésus devra leur dire, « Je ne vous connais pas. Je ne savais pas que vous faisiez tout cela pour moi. Vous n'êtes pas venu me demander ce que je voulais que vous fassiez. Vous n'avez pas cherché à m'obéir. » Ce n'est pas suffisant de l'appeler Seigneur. Il faut aussi lui obéir. Et pour connaître sa volonté, il faut lire la Bible. Ce livre contient la pensée de Dieu, les désirs profonds de cet être créateur et puissant qui nous aime et veut nous sauver. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 7. Bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Au cours de l'émission, tu nous as demandé qui était notre espérance. Et tu nous as dit que Jésus-Christ était l'objet de notre foi quand on regardait son œuvre dans le passé. Tu as ajouté qu'on percevait son amour quand on regardait autour de nous. Et tu as terminé le tout en disant qu'en regardant vers l'avenir, Jésus était notre espérance. Mes amis, Régent a aussi dit que Jésus devait être notre espérance tout au long de notre vie, que notre espérance était ancrée en Christ Jésus. Quand on dit que Jésus est notre espérance, je ne peux m'empêcher d'être reconnaissante envers Dieu, de m'avoir donné un ministère au sein de l'équipe qui vous présente nos émissions de radio quotidiennement. Voyez-vous, cette équipe se nomme « Aujourd'hui l'espoir ». Et notre but, c'est de glorifier Dieu en annonçant à tout le monde qu'aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus. Quelle joie de partager ceci avec vous et avec toutes les personnes qui viennent entendre le message de l'Évangile que nous présentons dans les camps de l'espoir, dans les concerts gospel, dans les déjeuners de l'espoir et bien sûr par le biais de nos émissions à la radio et à la télé. Mes amis, Jésus est mon seul espoir. Et j'espère de tout cœur qu'il soit votre seul espoir. Je ne vous connais pas intimement, mais je sais que certains d'entre vous pouvez réussir dans la vie. Vous avez peut-être un commerce qui va bon train, ou il est possible que vous soyez un professionnel, un médecin, un avocat, un professeur, et que tout aille très bien sur ce plan. Peut-être que vous avez, en plus, une très belle famille unie et beaucoup de bons amis. Mais il ne faut pas oublier que le temps qui nous reste sur cette terre est comme une seconde sur l'horloge de l'éternité. Et c'est pendant le temps où nous sommes ici-bas que nous devons prendre une décision très importante concernant l'endroit où on va passer l'éternité. C'est pourquoi le seul espoir, c'est Jésus. Il est le seul à avoir payé notre billet d'entrée pour le ciel et il nous l'offre de notre vivant sur cette terre. Il a payé très cher pour ce billet. Et maintenant, mon ami, en ce moment même, il t'offre ce billet. Le coût, c'est sa mort à la croix au calvaire. Et toi, tu n'as absolument rien à payer. Tu n'as qu'à recevoir ce cadeau de la main du Seigneur Jésus. Il frappe à la porte de ton cœur présentement. C'est à toi d'ouvrir la porte. Et pour ce faire, tu dois avouer que tu es un pécheur, une pécheresse. Tu dois reconnaître que Jésus a payé la dette de ton péché en mourant sur la croix, sachant qu'il est le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, le seul à n'avoir jamais péché sur cette terre. Alors, mon ami, repens-toi maintenant. N'attends pas à demain. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. C'est ainsi que tu vas ouvrir la porte de ton cœur et qu'il viendra habiter en toi par son esprit. Et tu seras un enfant de Dieu, une nouvelle créature, un héritier qui va vivre avec lui dans son royaume pour l'éternité. Choisis cette éternité de bonheur. N'attends pas demain. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain. Tu vas peut-être mourir dans 5 minutes. Choisis la vie éternelle avec Jésus.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui seront aidés.
Tu as besoin d'amour. Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.